a quelques petits manquements, mais on essaye de tenir le rythme, on essaye d'être toujours là, de vous tenir informé de ce qui se passe de par le monde sur l'actualité du cannabis.
Bah, il y, y en a bien toujours un qui essaye d'être là quand il n'oublie pas ses clés, quoi.
Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des tests salivaires. On va vous parler de Saint-Ouen, voilà, où rien ne change. Quoi, ça, c'est la France. On ira faire un tour en Hollande, où le gouvernement de droite essaie toujours de réguler, de réduire le nombre de coffee shops. Heureusement, la résistance s'organise là-bas et ils tiennent le choc. On ira faire un tour en Uruguay et sans doute aussi au Canada. On parlera aussi un tout petit peu du Chili. Et puis, bah, sinon, on parlera de choses diverses comme un rapport d'Amnesty International sur la peine de mort qui ne tue pas le trafic de drogue. Ça, on le savait. On parlera du chanvre, une plante qui a plein de propriétés et qui est utilisée sous toutes ses formes, voilà, et pas seulement de façon récréative ou médicale, mais aussi de façon alimentaire, de façon technique pour l'environnement, pour des litières, pour des plastiques, pour plein de petites choses. Voilà, on fera un petit peu pour le sommaire de ce soir. Et puis, faites attention quand vous vous promenez avec des objets, avec des feuilles de cannabis. Là aussi, on aura une petite brève de quelqu'un qui avait une casquette.
Un dangereux terroriste sur notre territoire.
Et
dangereux.
Oui. Et il a été arrêté et mis en garde à vue, heureusement.
Ah, heureusement que la police est là et fait son travail.
Voilà, voilà un petit peu pour le sommaire rapide de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Une petite annonce à faire.
Non.
Rappelez que c'est l'émission du cirque, peut-être.
Oui, d'accord. Oui, donc, oui, bah, vous êtes bien Cannabis Circus, dans Cannabis Circus sur Radio Canu. Voilà, je vais y arriver, 102.2 MHz. La plus rebelle des radios et le cirque Lyon, plus précisément, que vous écoutez tous les lundis soirs.
Le collectif d'information et de recherche cannabique, hein, c'est ça?
Ouais, en effet. Donc vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez nous écrire par voie postale Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Et on a aussi un site internet cirque-lyon.fr, vous pouvez retrouver toutes les infos, notamment si vous souhaitez soutenir notre ami Jeff qui était là lundi dernier pour témoigner à l'antenne de tous ses petits soucis médicaux, des problèmes de santé qu'il a avec sa névralgie et le fait qu'il est obligé d'aller en Hollande régulièrement chercher du Bedrocan, qui est un médicament à base de cannabinoïdes, notamment est riche en CBD et sans THC, et voilà, et donc il a eu des soucis au mois d'août, il était venu en parler la semaine dernière, il s'est fait saisir tout son médicament par la douane, et Jeff, il y est là actuellement en Hollande, il va sans doute y rester tout le mois d'octobre, il a pu se refaire prescrire une... son médecin lui a donné une nouvelle ordonnance et pour qu'il puisse se faire prescrire du Bedrocan. Donc voilà, il reste en Hollande pendant un mois dans des conditions de vie très précaires parce que acheter du Bedrocan, ça coûte très cher, monter là-bas, ça coûte cher. Donc voilà, on a mis en place avec le Cirque Lyon une petite caisse de solidarité, une caisse de soutien pour aider Jeff à supporter son épreuve aussi autant moralement qu'économiquement. Donc voilà, sur le site internet cirque-lyon.fr par exemple. Voilà.
Musique. J'ai bien connu Mexico Bay. J'y ai croisé un Japonais. Il m'a dit marche sans te presser. Y'a pas grand chose à visiter. Je suis passé chez Walt Disney. Y'avait tout un tas d'allumés. Avec des costumes de Mickey qui dansaient comme des avalés. J'ai fui de ce pays et j'ai nagé oiseaux. Des eaux remplies d'animaux qui sont gueulés dans la télé. J'ai rencontré Brigitte Bardot. Elle m'a trouvé un peu par jour. Elle m'a dit viens voir mon coco. Je vais te présenter à mon blaireau. Jusqu'à l'Elysée, là-bas le chef, j'ai réclamé. Il m'a dit, si tu manques de blé mon petit gars, y a aucune raison d'espérer. J'ai rencontré Madame Maigret, pour lui faire jouer du djembé. Elle avait l'air un peu gênée de parler à un étranger. Peut se tromper, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se tromper.
Merci. Et oui, donc on vient de s'écouter Tout le monde peut se tromper, Mickey 3D.
Voilà, Mickey 3D, lui aussi, qui avait accepté de faire sa petite contribution, donner une petite chanson pour une compilation du cirque il y a quelques années déjà. C'était bien sympa, comme Yannick Noah, dont on a passé le morceau il y a quelques semaines aussi. Voilà,
comme toujours ces vieux CD qui nous accompagnent régulièrement.
Ben oui, en effet, ils nous accompagnent, mais ce sont des morceaux inédits que seuls ceux qui ont les compiles peuvent écouter. Mais j'aime bien rappeler le nom des artistes qui sont tous pour la plupart. Enfin, non, j'allais dire qu'ils sont tous pour la plupart très connus aujourd'hui et tout, mais pas tous parce qu'il y en a qu'on connaît très peu. Mais quelques vedettes, on va dire, hein, je sais pas comment, quelques vedettes qui ont accepté voilà, de donner une chanson pour mettre dans cette compilation Tolérance 00, compilation qui avait été faite par le cirque il y a 15 ans quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très surpris de, je pense pas à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent tous les lundis et qui connaissent un peu cette compilation, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient étonnés de savoir que ces personnes-là, Yannick Noah, Mickey 3D, puis j'en oublie, il y en a d'autres hein, dans les compiles encore, hein, qui sont un peu connus là.
Tout à fait.
Qui ont accepté, qui, à mon avis, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils le referaient, quoi. Vu que l'ambiance a quand même changé dans ce pays. Malheureusement. Bien.
Bien.
Bon, alors. Est-ce qu'on commencerait pas justement, parce qu'on parlait d'ambiance, par ce jeune homme qui a été arrêté dans la rue avec une casquette, avec une feuille de cannabis?
Ah oui, tout à fait.
C'est vite fait. Bon, puis voilà, juste.
C'était en Ardèche, hein, c'était une.
Pas très loin d'ici, donc.
De France Bleu.
Tout à côté d'ici. Hein.
Du 7 octobre, voilà, en Drôme Ardèche. C'est au centre Leclerc de Saint-Étienne, hein, pour pas le citer. Non, Saint-Étienne de Fontblon, pardon.
De Fontbellon.
De Fontbellon, en Ardèche, un peu plus loin que juste à côté.
Un très bel endroit.
Voilà, donc c'est la sécurité routière qui animait des actions de sensibilisation. Et un jeune homme de 20 ans a choisi ce jour-là pour se promener avec une casquette imprimée de feuilles de cannabis. Et donc, les gendarmes l'ont interpellé pour provocation à l'usage de stupéfiants. Voilà, donc Le parquet de Privas a été saisi de cette affaire.
Gravissime.
Voilà, parce que c'était quand même une casquette criminelle.
Ouais, bah, je pense que ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que justement, ce jour-là, ils animaient des actions de sensibilisation à cet endroit-là, sur le parking du Leclerc. Et que bah, ce jeune qui se pointe là, ils ont pris ça comme une provocation spécialement destinée contre eux, en fait, alors que je pense que lui, il ne savait pas du tout qu'ils étaient là. Donc ça a pris une tournure. Enfin, c'est l'affaire du siècle, on dirait, là-bas, quoi. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Mais à côté de ça, si vous êtes ministre et que vous avez une grosse feuille qui rappelle le cannabis sur vos habits, hein, genre Rachida Dati par exemple, sur un plateau de télé, il y a quelques années, eh bien là, ça passe. Voilà, ça passe. Voilà. Par contre, si vous êtes un jeune, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a un camarade à Strasbourg, hein, qui avait une petite feuille sur son t-shirt, notre ami Bertrand Rambou, hein, qui s'est retrouvé aussi devant les tribunaux suite à une interpellation dans la rue par la police, quoi. Voilà. C'est tout. Bien, enchaînons. Alors, on va parler maintenant un peu de dépistage au volant et de tests salivaires, si tu n'y vois pas d'inconvénient.
Pas du tout.
Donc, on a déjà un peu parlé de ce thème il y a une quinzaine de jours. Hein, il y avait un autre article qui était paru dans la presse et qui reprenait un certain nombre d'éléments qu'on a aujourd'hui dans cet article du Huffington Post du 2 octobre dernier. Là où on a des informations un peu plus précises. Et je voulais justement profiter de cet article pour vous informer de ce qui est possible de contester justement en cas d'arrestation et de test. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, de tests salivaires. Il y a eu le 2 octobre dernier un comité interministériel de la sécurité routière qui a été réuni à l'initiative ou en tout cas par Manuel Valls, Premier ministre. 4 ans, alors je vous lis un peu l'introduction de l'article du Huffington Post. 4 ans après le dernier comité de ce type, une série de nouvelles mesures pour lutter contre les comportements à risque doit être annoncée. Et la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, a confirmé au Huffington Post que parmi ces annonces figure la généralisation de nouveaux tests salivaires pour détecter l'usage de drogues au volant. Après une expérimentation concluante menée entre décembre 2014 et juin 2015 dans 11 départements, ces tests devraient être utilisés pour tout le territoire dans le courant de l'année 2016, précise au journaliste Daniel Jourdain-Méninger, qui est la présidente de la MILDECA, présidente depuis l'élection de François Hollande.
Voilà, donc ça, c'est pas les premiers tests. Hein. On en a eu plein de différents, mais ceux-là ont l'air d'être plus efficaces, c'est ça ?
Alors voilà, en fait, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que jusqu'à présent, vous étiez dépisté avec un test salivaire au bord de la route. Si, ça aussi, il faut le rappeler, hein, si les forces de l'ordre ont détecté chez vous la possibilité que vous commettiez un délit, alors comment ils font ? Ben, ils regardent votre tête, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle le délit du faciès. Hein. Donc, en général, sont contrôlés habituellement pour ce genre de choses des jeunes, encore des jeunes avec la peau un peu plus basanée, des jeunes avec une casquette, des dreads, un tatouage, des piercings. Voilà, bon, c'est leur cœur de cible. Hein. Il ne faut pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passait ? On vous faisait faire un test salivaire. S'il se révélait positif, et si on voulait vous poursuivre, il fallait vous emmener aux urgences il y avait un médecin sur place, il fallait vous emmener aux urgences ou dans un cabinet médical pour faire procéder à un test sanguin. Et c'est ce test sanguin qui pouvait vous incriminer ou faire poursuivre pour usage de stupéfiants, entre guillemets, hein, parce que c'est souvent pas le cas, mais comme il y a des traces qui restent longtemps, voilà. Donc on devait amener aux urgences les contrevenants. Alors ils pouvaient détecter ce test salivaire cocaïne, cannabis, héroïne et amphétamine, et pas les médicaments, hein. Il faut quand même le rappeler aussi, hein. Pourquoi ? Parce qu'on a fait en sorte qu'on puisse pas dépister les médicaments, voilà, tout simplement, comme par hasard. Donc on devait vous emmener aux urgences, donc on nous dit dans cet article, et c'est vrai, hein, c'est une étape très chronophage, c'est-à-dire prend du temps, car ça mobilise deux agents pendant environ 3 heures. En 2014, on nous donne des chiffres, hein, sur les 125 000 contrôles effectués avec le test de la bandelette, 50 000 se sont avérés positifs et ont donc nécessité une prise de sang. Au total, ces actes médicaux ont demandé 300 000 heures aux forces de l'ordre, sans compter les frais des prises de sang pris en charge par la justice. Mais avec les nouveaux tests salivaires, le passage par la case urgence est tout simplement supprimé. Lors d'un contrôle dans le cas où le test bandelette est positif, les forces de l'ordre pourront procéder au prélèvement salivaire directement sur le lieu de l'infraction avec un deuxième test salivaire qui sera ensuite envoyé à analyse et en cas d'usage avéré de drogue, le conducteur recevra une convocation au tribunal comme c'est actuellement le cas avec la prise de sang. Voilà. Donc on nous rappelle dans l'article que conduire sous l'emprise de stupéfiants est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Ce qu'on nous dit pas, hein, et ce qu'on nous dit jamais dans tous ces articles, c'est que...
Moins de 6 points aussi sur le permis.
Hein. Aussi moins de 6 points, ouais, mais voilà, ce qu'on nous dit pas, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été arrêtés avec des tests qui ont marqué positif, alors qu'en fait... les personnes ne conduisaient pas sous l'influence du produit. Mais avec le cannabis, les tests de dépistage peuvent détecter la présence de THC-COOH, qui est un acide qui dégrade en fait le THC dans l'organisme et qui prouve que donc on n'est plus sous l'influence. Mais ça suffit pour vous incriminer en fait. Et alors que vous n'êtes justement pas sous l'usage du produit. Voilà. Donc oui, c'est là où est la grosse arnaque.
La loi dit qu'on n'a pas le droit de conduire après avoir consommé. Sans préciser de durée après.
D'une part, mais le texte est fait de telle manière qu'on peut ratisser très très large en fait. Donc comme tu dis, on a fait usage d'eux, on ne sait pas si c'est une heure après ou 25 jours après. En l'occurrence, la loi permet d'arrêter à peu près tout le monde. Donc, ce dispositif dont on nous parle là dans cet article apparemment est déjà utilisé en Espagne. Il a été testé sur 200 conducteurs volontaires selon les recommandations d'un comité scientifique. À l'issue de l'expérimentation durant laquelle le prélèvement sanguin et un prélèvement salivaire ont été effectués, les résultats entre les deux méthodes concordaient à plus de 99%. Donc le temps économisé grâce à cette technique devrait donc être mis au profit pour augmenter le nombre de contrôles. Aujourd'hui, nous dit Madame Danielle Jourdain-Méninger, il y a 125 000 contrôles liés à la drogue contre 11 millions de contrôles pour l'alcool. Donc vous voyez, il y a une marge de progression vachement importante. Or, 14% des personnes impliquées dans un accident mortel sont sous l'emprise de stupéfiants. La menteuse. Par ailleurs, le risque de mortalité est multiplié par 2 en cas de consommation de drogue et par 15 lorsque drogue et alcool sont mélangés. Donc, quand Madame Jourdain-Méninger nous dit que 14% des personnes impliquées dans un accident mortel sont sous l'emprise de stupéfiants, elle oublie de dire, et ça c'est très regrettable et c'est de la désinformation, que c'est sous l'emprise de stupéfiants, certes, avec souvent un mélange avec de l'alcool. Et c'est là où il y a un souci. Et effectivement, là on ne peut pas lui dire qu'elle dit des bêtises, mais qu'effectivement on sait bien que ce qui est dangereux c'est le mélange alcool-cannabis qui multiplie par 15 le risque d'être impliqué dans un accident mortel. Mais encore une fois, il faut absolument le rappeler, l'usage du cannabis seul au volant est peu dangereux, il est même moins dangereux statistiquement que la consommation d'alcool à un taux légal. Voilà, on a plus de risques d'avoir un accident mortel en ayant bu de l'alcool modérément et en présentant un taux légal qu'en ayant fumé du cannabis. Voilà, donc il faut quand même le dire. Ça, imaginez bien qu'ils ne vont pas le dire. Hein. Alors voilà, maintenant, ce qui est important, c'est que avant que tout ça marche au niveau légal, il faut que la loi change. Hein, parce qu'à l'heure actuelle, dans les textes, seul un test sanguin peut caractériser l'infraction devant les tribunaux. Et pas un deuxième test salivaire, comme c'est ce qu'ils veulent faire. Donc la loi va changer, mais pour l'instant, elle n'a pas changé. Hein ? Les choses, nous dit-on, sont déjà en route depuis un petit moment. Et en septembre, on sait qu'il y a eu une loi santé qui a été amendée par les sénateurs et qui valide justement l'utilisation du deuxième test salivaire, et notamment le fait qu'ils doivent faire preuve devant les tribunaux. Voilà. Donc après la modification de la base législative et le décret d'application, donc c'est-à-dire encore pas tout de suite, hein, nous passerons à la phase de généralisation du dispositif. Voilà. Donc, ce que je voulais dire à nos auditeurs et auditrices, je pense que c'est vachement important, c'est, et on l'a déjà vu, hein, c'est pour ça qu'on insiste un petit peu, on l'a déjà vu, on sait qu'ils sont, ils sont roublards également. Il est fort probable que dans les prochaines semaines, vous ayez affaire à des tests salivaires, voire même au deuxième test salivaire qui va venir confirmer, ou éventuellement, ça peut arriver, infirmer le premier. Il est possible que vous vous trouviez poursuivi. Voilà. Sachez que si on n'a pas fait de test sanguin, vous ne pouvez pas vous retrouver devant la justice. Vous ne pouvez pas être condamné. Donc c'est important que vous ayez...
La loi n'a pas changé.
Eh ben oui. Mais on imagine bien qu'ils vont essayer de le faire avant que la loi change. Ou parce qu'ils n'auront pas été informés, ou par erreur, ou par zèle, ou par je ne sais quelle autre, pour je ne sais quelle autre raison. Mais voilà, donc c'est important d'avoir des juristes autour de vous, des gens compétents, ou de contacter le cirque, qui peuvent éventuellement vous mettre en lien avec des avocats qui connaissent quand même un peu tout ça. Le mieux, c'est à la limite de se taire, de ne pas le dire à la police. S'il y a eu uniquement un deuxième test salivaire de confirmation, ça ne tient pas devant un juge. Et donc, vous ne pouvez pas être condamné. Voilà, c'est important quand même. On ne pourra pas vous faire un coup de bluff comme ça, si vous êtes au courant. Pour l'instant, la loi n'a pas changé, donc il n'y a que si un test sanguin a été fait pour confirmer le test salivaire, donc vous incriminer éventuellement. Voilà. J'espère que c'est clair.
Tout à fait. Il y avait un autre article aussi dans la dépêche,
ouais.
Qui disait stupéfiant l'explosion. Donc, il noterait qu'en Haute-Garonne, les gens qui conduisent avec du cannabis augmentent de façon exponentielle. Je sais pas.
Pas le nombre de contrôles.
Non, y compris le nombre de contrôles, mais le nombre de personnes aussi a priori. Mais bon.
En fait, cette réalité ne s'explique pas seulement par la banalisation de la drogue, notamment l'herbe ou le cannabis chez les jeunes conducteurs. Les tests, nous dit-on, ont également beaucoup progressé. Les tests ont progressé et leur quantité a augmenté aussi. Ils sont plus faciles à utiliser, donc les forces de police procèdent à ce type d'opération de manière plus fréquente. Voilà, ouais. En fait, c'est pour ça, quoi.
Bon, et sinon, il rappelle les peines. Et juste aussi, un rappel, c'est que comme pour l'alcool, en cas de... d'accident mortel, donc il y a des contrôles sanguins, et donc si on trouve des stupéfiants dans votre sang, ou si on trouve un taux d'alcoolémie plus important que la normale ou ce qui est autorisé par la loi, votre assurance ne vous couvre pas.
Oui. Voilà. Musique, c'est
tous
ça que t'allais me dire.
À 21h sur Radio Canu.
T'en veux ?
C'est quoi ?
Du Poppers !
Non, je te remercie.
Cannabis Circus.
C'est pas détecté par les tests salivaires, le Poppers.
D'accord.
Et c'est légal, maintenant.
Non, juste, je pense qu'on va parler un tout petit peu, on va rester en France et parler de ce qui se passe à Saint-Ouen, où là aussi, c'était Bernard Cazeneuve qui, l'année dernière, quoi, il y a 6 mois de ça... était descendu à la ville de Saint-Ouen.
Et il y avait le branle-bas de combat à Saint-Ouen. Ouais.
Et ils allaient tout changer, tout chambouler, mettre les dealers
à genoux. Les consommateurs
au pas. Voir.
Voilà, police, CRS, BAC, douane, GIRS, tout le monde allait venir
tout le temps
prendre.
Tout le temps, partout, ils vont augmenter le nombre de policiers et vous allez voir ce qu'on vous allez voir. Eh ben, on voit, il se passe rien.
Ça va augmenter. Il se passe que ça continue, qu'en fait, ça n'a rien changé.
Oui, là, c'est ça. Il se passe rien, quoi. Ça continue.
Enfin, il se passe rien au niveau des réussites policières.
Voilà. Alors, il y a un petit peu plus de policiers. Hein, ils les voient passer, mais a priori, on se demande si c'est les policiers qui surveillent les dealers ou si c'est les dealers qui surveillent les policiers. A priori. Les trafiquants de drogue donc surveillent plus la police que la police ne les surveille. Bon, et donc ils changent un petit peu aussi de temps en temps. Ils changent de palier ou ils changent d'entrée d'immeuble. Ah non, aujourd'hui il faut aller va dans l'entrée d'à côté. Voilà, c'est à peu près les seuls petits changements. Ils vont peut-être essayer de mettre des effectifs spécialités, bon, spécialisés, mais en tout cas, a priori, ce n'est pas encore le cas.
Alors, il y a un truc aussi que je trouve hallucinant. C'est que bon, la municipalité est passée à droite aux dernières élections municipales. Et donc, le maire UDI William Delannoy, il a été frappé par le syndrome Gérard Collomb. C'est-à-dire que lui aussi, il a décidé d'équiper sa ville de caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection, maintenant, il faut dire. Une espèce de novlangue aussi, là. Donc, une centaine de caméras seront installées avant la fin du mandat de ce nouveau maire en 2020. Voilà, il y a tout un tas de rapports qui sont sortis sur la vidéosurveillance en France et en Europe qui montrent que finalement ça ne sert à rien. Enfin, ça peut avoir un impact dans des lieux un peu ouverts, mais c'est ce qu'on appelle l'effet plumeau en fait. C'est-à-dire que ça déplace éventuellement, s'il y a de la délinquance, ça la déplace ailleurs. Mais c'est tout. Ça coûte très cher. Le dernier rapport là, qui a été fait. Ça a été montré sur France 2 là, dans l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet. Il montrait que sur, mettons, 20 caméras installées dans une commune, il y en a très rapidement une 5 ou 6 qui sont abîmées, cassées, et qu'elles ne sont jamais entretenues et jamais remplacées. Donc en fait, les municipalités payent pour un stock de caméras et en fait, il y en a le tiers qui fonctionne, quoi. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, c'est un scandale et du gaspillage d'argent public. Bon, on sait que pour la lutte contre la drogue, c'est du gaspillage d'argent public, mais si en plus on y ajoute la vidéosurveillance, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre Il y a des habitants qui regrettent quand même que la ville soit quand même laissée plutôt. Entre les mains des gens qui font du business et qui regrettent, et il y en a un qui dit ben moi je vais partir de la ville, quoi. Bon, on trouve que c'est joli, mais il va s'en aller. Ensuite, il y a un policier, un délégué syndical qui dit carrément que c'était illusoire de vouloir mettre fin au trafic, seulement avec des passages mensuels de douaniers et des compagnies de CRS. Voilà. Ils font certes un boulot respectable, dit-il, mais ils ne connaissent pas forcément la délinquance locale. On a besoin de 25 effectifs en plus sur des services purement spécialisés dans la matière du stupéfiant pour mettre fin au trafic. Il est optimiste, le policier. Je suis pas sûr que même en faisant ça, ils arrivent à y mettre fin. C'est toujours pareil. Le même obscurantisme politique, la même volonté de ne rien voir changer. C'est les petites gens qui vivent dans ces quartiers qui en pâtissent le plus. Et des fois, on sait bien qu'ils font des exemples et qu'ils arrêtent quelques personnes qui, globalement, ne sont que des petits, petits maillons d'une très grande chaîne. Et en gros, ça sert à rien non plus. Donc bon, c'est assez pitoyable, quoi.
D'ailleurs, la guerre contre la drogue ne sert à rien. Faire la guerre à un concept, c'est assez difficile.
Ça ne sert à rien, et même si on les tue, ça ne sert à rien non plus. Parce qu'il y a un article dont on va parler, un article qui est paru dans RFI, à propos de la peine de mort, et notamment en ce qui concerne les trafiquants de drogue. Ça ne fait pas baisser l'usage ni le trafic non plus, quoi. Voilà, on va revenir sur cet article que j'ai trouvé très bien. Mais avant, on va s'écouter un petit peu de musique. À tout de suite.
Allez.
Gone, gone, gone. One. Two, and one, two, three. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you want. Ganja in the morning, ganja in the night, ganja anytime you like. Cause I feel happy anytime you think of it, anytime you roll it. Don't be small, don't smoke it all, don't make my joints so small. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Cause ganja, ganja, ganja's right for me. Ganja, ganja, marijuana. Ow! Ganja, ganja, marijuana. Ganja, ganja, marijuana. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need. Ganja, always ganja, always marijuana is what we need.
Marijuana, ganja, ganja in the night, ganja in the morning, ganja, Castafiore Bazooka, avec leur titre donc ganja.
Voilà, donc bon, pas forcément, vous n'êtes pas forcément obligé de commencer à en fumer dès le matin si vous aimez ça. Vous risquez de plus pouvoir faire grand chose après de votre journée. Voilà, si on doit faire un peu d'information et de prévention. Voilà, si vous allez au boulot, à l'école, surtout pas fumer le matin, quoi. Vraiment pas. Hein? Bon, alors donc, revenons à des choses un peu plus sérieuses, malheureusement. Un article qu'on a trouvé dans RFI.fr très récemment, là, du 10 octobre, intitulé « La peine de mort ne tue pas le trafic de drogue ». Voilà, un article très intéressant qui se penche sur la croisade, entre guillemets, abolitionniste des structures, des associations, des collectifs, et notamment d'Amnesty International, qui milite pour l'abandon de la peine de mort dans un certain nombre de pays, et qui là se penche un peu plus sur la peine de mort qui concerne les personnes qui sont impliquées ou considérées comme trafiquants de drogue.
Voilà, parce que c'est donc le 10 octobre et la journée donc,
internationale.
Internationale contre la peine de mort. Et donc cette année, voilà, ils ont souligné l'inutilité de la peine de mort pour endiguer le trafic de drogue.
Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qu'on apprend dans cet article, et très honnêtement, moi-même je l'ai appris, et ça m'a étonné quand même, hein, je ne vous cache pas. Ce qu'on apprend en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, énormément en fait, hein. On le dit régulièrement que 90% des usagers, enfin 90% des personnes qui sont enfermées ou poursuivies pour des affaires de drogue en France concernent des usagers de cannabis. Mais j'ignorais quand même que, en tout cas d'après ce qu'on peut lire là, que la plupart en fait des personnes qui sont poursuivies et qui sont en passe d'être condamnées à mort dans des pays, c'est pour du cannabis.
Ouais, pas partout, mais en Malaisie, par exemple, ah bah, tout à fait.
C'est quand même... Lis la phrase.
Bien que ces produits soient responsables de la quasi-totalité des décès, donc...
Les produits, c'est les opiacés vendus sous ordonnance.
Voilà, qui font 183 000 décès hein, par an. Donc, plus que l'héroïne, ou même plus que les produits, je dirais, naturels, entre guillemets, qui viennent de plantes, quoi. Donc la plupart des morts sont liées à la consommation non médicale d'opiacés vendus sous ordonnance. Hein, donc c'est des médicaments détournés de leur usage. Donc bien que ces produits soient responsables de la quasi-totalité des essais, ce sont les trafiquants de marijuana qui constituent la grande majorité des condamnés à mort dans certains pays. Par exemple, donc en Malaisie, où la plupart des personnes condamnées à mort ont été reconnues coupables d'infractions liées à la marijuana ou au hashish.
En Malaisie.
Voilà.
La Malaisie, qui est un pays, je dirais, de culture et de consommation traditionnelle du chanvre. C'est quand même hallucinant, quoi.
En tout cas, y compris l'ONUDC l'avait remarqué, et là... c'est Amnesty International qui cite donc l'imam Sadek Larijani, qui est chef du pouvoir judiciaire en Iran, qui a déclaré « Malheureusement aujourd'hui, en ce qui concerne les drogues et les lois liées à la drogue, nous constatons que ces lois n'ont pas eu d'impact. » Voilà, puisque en Iran, hein, donc, ils tuent toujours, là-bas aussi, il y a la peine de mort pour les trafiquants, voire même les utilisateurs. Donc, en Iran, donc, il y a eu 289 exécutions capitales et donc 122 étaient liées au trafic de stupéfiants, donc près d'un tiers. Voilà, et je crois que c'est à peu près ce chiffre-là de par le monde. Donc, les chiffres qui sont très peu connus parce qu'il manque la Chine, pour lequel il y a un petit blackout. Mais bon, il y en a que, il y a quand même pas mal d'exécutions. Hein. Donc, en 2013, 607 exécutions ont eu lieu dans le monde. Donc, sans compter la Chine qui doit en faire un petit peu plus que ce total, donc doubler quasiment le total. On peut remarquer qu'il n'y a que 22 pays qui pratiquent encore la peine de mort. Donc il y a quand même Amnesty International fait remarquer qu'il n'y en avait que 16 qui avaient aboli la peine de mort en 1977. Ils sont 140 aujourd'hui. Donc la majorité des pays ont aboli la peine de mort. Sauf que quand même, au niveau de la population mondiale, ça fait quand même 30% de la population mondiale encore.
30, c'est-à-dire ?
Ben, un tiers de la population mondiale vit dans un des...
100 pays qui ont aboli la peine de mort.
Ah pardon, donc deux tiers, pardon. Donc les deux tiers vivent dans les 22 pays qui n'ont pas aboli. Donc voilà, même s'il y a plus de pays, le nombre de pays est majoritaire dans la population mondiale, les plus grands pays donc n'ont pas aboli, donc comme les États-Unis, comme la Chine, voilà.
Voilà. Alors il y a aussi autre chose là qu'on peut relever dans cet article, c'est que il y a eu des pays qui ont arrêté la peine de mort, pas mal. Je vous le dis comme ça, je vais finir par retrouver la phrase exacte. Mais il y a d'autres pays, par contre, qui avaient abandonné la peine de mort, mais qui ont réintroduit la peine de mort pour le trafic de drogue. Donc des pays qui avaient avancé et qui finalement se remettent à reculer. Je ne sais pas comment on peut dire ça.
On peut aussi noter que contre la peine de mort... Les gros poneys y échappent, hein. C'est rarement
comme d'habitude,
eux
qui se font choper. Ouais.
Et ces sanctions qui donc ne permettent pas de réduire le trafic de drogue, mais par contre, la coalition mondiale contre la peine de mort souligne que bon nombre de des personnes exécutées et condamnées à mort sont loin d'être des acteurs majeurs dans le trafic. Il s'agit surtout de personnes pauvres, vulnérables et qui sont des proies faciles. Voilà.
Je retrouve plus ma phrase de tout à l'heure, ce n'est pas grave. Bref, en tout cas, ce qu'on apprend malheureusement, c'est que, et encore une fois, je pense qu'il faut le rappeler, ça aussi, il y a certainement parmi les personnes qui nous écoutent des auditeurs et auditrices qui sont voyageurs. Et qui se rendent sans doute dans certains pays où il y a justement de la peine de mort, hein, au niveau de l'usage de drogue. Donc faites gaffe, jouez pas avec ça. On va pas vous rappeler, vous raconter une fois de plus l'histoire de Michael Blanc et de Serge Atlaoui. Hein. Serge Atlaoui, lui, visiblement, il a rien à voir avec le Schmilblick, hein, mais il est quand même dans le couloir de la mort en Indonésie. En tout cas, voilà, si vous êtes consommateur assumé et que vous dites oh bah ça va bien passer, c'est que du cannabis et tout, non, ça passe pas. Et il y a des pays, notamment en Asie du Sud-Est, où voilà, même pour du cannabis, vous risquez la mort en fait, tout simplement. Et donc c'est quand même malheureux de savoir que aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont exécutés pour une histoire de cannabis, quoi. Mais c'est la réalité. Il faut faire gaffe. Et il y a des pays où c'est pas que pour des histoires de produits genre cannabis, héroïne, cocaïne. Je pense à l'île Maurice par exemple, la méthadone, le Subutex là-bas sont considérés comme des drogues. Et il y a une Lyonnaise qui est actuellement toujours à l'île Maurice et qui malheureusement est en prison et qui risque aussi la peine de mort. On n'en parle pas suffisamment de cette jeune personne. Mais voilà, donc... ça, faut faire attention, ça rigole pas. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je sais pas sur quoi tu voulais embrayer en particulier.
Sur quoi je voulais embrayer, je sais pas.
On a encore pas mal de choses à traiter.
On va embrayer sur ça, une petite taf.
Tous les lundis,
je tire une taf
à 21h sur Radio Canu.
J'avale
Cannabis
Circus.
Voilà, c'était juste un petit jingle pour passer d'un sujet à l'autre et juste pour aller faire un tour en Hollande. Où là, il y a un grand article.
La Groenland ? Non, en Hollande, oui.
En Hollande, aux Pays-Bas. Où essor et déclin des coffee shops est intitulé l'article de donc dinafen.org.
Voilà, Dinafen qui est un grainetier.
Les nouvelles lois pour éliminer la production de cannabis en Hollande.
Ouais, on va peut-être pas reprendre tout l'article en détail, mais juste si tu le fais ou je...
Non, vas-y, ouais. On va essayer de le faire un peu en vite. Hein. C'est toujours le ministre de la Justice, Ivo
Opstelten.
Tel qui me fait des siennes, voilà. Voilà.
Alors bon, pour aller vite, hein, ces dernières années, il y a eu, comme dans plein de pays d'Europe, une poussée conservatrice assez forte aux Pays-Bas, avec l'arrivée au pouvoir à l'Assemblée d'une droite dure, voire parfois de l'extrême droite. Malheureusement, ça fait que ces politiciens-là s'attaquent au modèle hollandais, en fait, de tolérance, et qui notamment tolère depuis 1976 les coffee shops et l'usage à titre personnel et la possession de petites quantités de cannabis. Et effectivement, cette politique hollandaise est symbolisée par la présence des coffee shops donc dans les grandes villes hollandaises. Voilà, donc celles et ceux qui ont pu se rendre là-bas. Mais
voilà, et donc depuis 2014, ils ont commencé à serrer. Oui, mais surtout, c'est là.
Enfin, surtout
ont passé
ces deux dernières années, oui.
La loi sur le weed pass pour interdire aux non-hollandais d'aller dans les coffee shops. Donc ça a été plutôt mis en place, en particulier
dans
à Maastricht.
Oui, dans le sud de la Hollande, zone frontalière.
Voilà, et donc Maastricht, et ben du jour au lendemain, on a vu réapparaître le trafic de rue. On se demande pourquoi.
C'est bon.
Donc, je ne sais pas s'ils y ont beaucoup gagné. Ils ont aussi réussi à fermer quelques coffee shops en exigeant que ces locaux soient situés à plus de 250 mètres des écoles et des centres de formation professionnelle. Donc ça en a fermé 41. Et puis là, ils continuent à faire des siennes, pour les coffee shops, en traquant la façon dont ils se pourvoient en herbe et en cannabis. Ils avaient déjà pas le droit d'avoir 500 grammes d'herbe sur eux, dans leur boutique. Donc forcément, il fallait qu'ils aient des planques, qu'il fallait sécuriser, parce qu'évidemment, tout l'approvisionnement était plutôt au noir et plutôt du côté des mafias, c'était difficile. Et donc ils avaient essayé de mettre en place des marchés un peu gris, on va dire, c'est-à-dire qu'il y avait des producteurs d'herbes sur place. Mais là aussi, ils ont essayé de réduire ce nombre de cultivateurs. Et là, la dernière loi qui est en train de vient de rentrer en vigueur, hein, c'était la loi sur les gros shops. Donc, c'est pour essayer d'empêcher les gros shops d'exister et de vendre du matériel de jardinage. Il s'attaque aussi aux grainetiers qui n'auraient le droit de vendre plus que des graines, mais rien d'autre avec. C'est-à-dire que s'ils vendent des graines, ils n'ont pas le droit de vendre du matériel de jardinage.
Et puis des graines pas féminisées.
Voilà, celle-là, c'est pas encore interdit, mais ça serait en passe de le devenir. Voilà, il parle aussi d'essayer de réduire le pourcentage, de bloquer le pourcentage de THC autorisé dans les plants à 15%. Alors, ça va être difficile à savoir. un petit peu une batterie de mesures pour embêter donc les Hollandais et la tranquillité. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Oui, et dans leur loi, ils essayent d'incriminer tout le monde s'ils tombent sur un endroit donc où il y a beaucoup de plantes, quoi.
Un lieu de production.
Un lieu de production, voilà, merci. Ils essayent de savoir comment il a été monté et ils peuvent incriminer tout le monde, y compris l'électricien qui aurait monté les lampes, par exemple, en batterie ou autre, pourrait être lui aussi impliqué. Donc voilà, il tape assez large. Il resterait une toute petite tolérance pour ceux qui possèdent moins de 5 plantes. Bien que n'importe quelle quantité de drogue, de plants est illégale en Hollande, hein, mais il laisserait un petit peu ceci en place. Et forcément, pour essayer de contre-attaquer et de faire quelque chose, les Hollandais se mettent donc au CSC, Cannabis Social Club. Donc à Amsterdam, il y a l'arbre de vie entre autres qui vient de se monter là-bas et donc comme c'est quand même des clubs de consommateurs et que c'est assez c'est mis en association, qu'il n'y a pas de publicité, c'est un peu difficile de s'y attaquer, et surtout que c'est que des petits groupes d'une cinquantaine de personnes. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour les cannabinophiles hollandais actuellement, mais ils essayent donc de faire de la résistance par tous les moyens en essayant toutes les solutions qui existent actuellement.
Oui, disons comme beaucoup de populations dans nos pays européens confrontées à une poussée de droite, de la droite et de l'arrivée au pouvoir des partis conservateurs, il faut faire le dos rond aussi, il faut patienter. J'ai confiance dans la Hollande, je ne sais pas pourquoi, je connais mal l'ambiance politique là-bas, mais j'ai plus confiance en eux que ce qui se passe chez nous dans l'Hexagone, quoi.
N'empêche que leur gouvernement au pouvoir actuellement, donc l'un a considéré que le cannabis était une ordure et l'autre disait que la marijuana venait de Satan. Donc, comme quoi, c'est pas encore gagné. Heureusement, a priori, les juges hollandais en ont marre de cette hypocrisie.
Ouais, ça c'est bien.
Et condamnent quand même très très peu ou très mal au choix comment les propriétaires de coffee shop, et donc ils les acquittent en général et même des cultivateurs
sanctionnés plusieurs fois.
Ouais. Voilà, sont acquittés de temps en temps. Donc voilà, c'est heureusement qu'il y a quand même de la résistance chez les juges hollandais. Mais voilà, c'est.
Mais tu sais, franchement, heureusement qu'en France, on a aussi une justice qui a quand même un peu évolué sur la question. Dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des enfants qui sont devenus magistrats. Et dans la magistrature aujourd'hui, quand même, de plus en plus de personnes se disent que y en a marre, hein, de ces histoires de chichons et ne suivent pas les politiques publiques gouvernementales qui veulent absolument fliquer et arrêter tous les consommateurs. Donc voilà, on a aussi un peu de chance quand même à ce niveau-là, à défaut d'en avoir au niveau de nos politiques. Voilà.
Allez, on se met un petit coup de musique cette fois.
À tout de suite.
Très content, il va bien s'amuser. Pour Noël, sa maman, elle lui a acheté un Big Jim très viril, entièrement armé. Il prend sa poupée Barbie, lui arrache les ovaires, la tête dans la vache qui rit. Il la prend par derrière, l'empale sur son critérium. Oh, dis-moi que t'aimes ça, putain. Prends la boîte d'allumettes, lui fait fondre les deux seins, coup dans les couilles. Et sont dans le cul, on va bien rigoler. Elle est tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Petit enfant très content, il va bien s'amuser. Les Pokémon, le journal du Hard et même les Digimon, tout ça s'est dépassé. Pour le fun à 20h, il regarde le JT. Fait l'hiver, Israël, ça tombe sur un beurre. Ah, je nous lèche tous les rangers, t'es qu'un raton à beurre. Ah, y'a de l'humour, de l'action, du sport et de la gaieté. Allez, vas-y, Viranque, fais fait tourner, coup dans les couilles et œil arraché. C'était son dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Petit enfant, très content, il va bien s'amuser avec sa bande, ses copains, dans la cour de récré. Et les mecs, on fait un Street Fighter. Ah, attendez, y a mieux. www.guerredalgerie.com. Hey, Franck, tu fais le communiste, on joue à la GGN. Il pédale comme un fou, mais à 200 volts, il peine. Alors, Franck, à vous tout. Oh, déconnez pas, j'ai pas le droit de me salir. Changement de jeu dans la boue, il fait le rôle du martyr. Hey, coup dans les couilles et œil arraché. Des sons dans le cul. Les tripes à l'air. On s'amuse, on rigole, on lui coupe les deux mains. Solo. Enfant très content, il va bien s'amuser. Pour 20 billets et 3 calots, Thierry lui a prêté son petit frère, le myopathe, pendant toute la journée. Il invente un nouveau jeu, le steeple chaise roulante. Mais Stéphane, c'est normal, lui il se fout de sa contente. Puis ils vont à la piscine et le myopathe veut plus jouer. Comment ça, qu'est-ce que tu dis? Glouglou, c'est pas français. Coup dans les coups. Et l'œil arraché, tout le monde.
Les sons dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse dans les gosses, on lui coupe les deux mains. Tout le monde est fou dans les couilles. Et l'œil arraché, les sons dans le cul, on va bien rigoler. Les tripes à l'air, cotillon serpentin. On s'amuse dans les gosses, on lui coupe les deux mains.
Voilà, et donc ça c'était Vaquette, éducation sentimentale.
Vaquette ?
Ouais.
Ah, je crois que ce morceau on l'a jamais passé.
L'indispensable. Ah, c'est possible qu'on n'a pas dû le passer souvent.
Ouais, bon, t'es bien rigolo. Voilà, donc il nous reste 5 minutes pour terminer. Alors, très vite, un article de scienceetavenir.fr. De la semaine dernière du 5 octobre qui nous reparle aussi de l'Uruguay et du fait que très bientôt très bientôt, depuis le 1er octobre en fait 2015, avec l'attribution par l'État de 2 licences de production et de distribution du cannabis à des entreprises locales choisies parmi 22 candidates selon M. Robalo, secrétaire de la présidence uruguayenne, dans 8 mois il y aura du cannabis en vente dans les pharmacies uruguayennes, en tout cas dans la capitale, je ne sais pas ailleurs, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc le gouvernement, nous dit-on, travaille avec les pharmacies pour y mettre en place la distribution du cannabis. Et là, on nous parle, je ne sais pas si c'est vraiment, s'il n'y a pas une erreur là, parce que je ne me semble pas avoir vu ça avant, ou j'oublie, je ne sais pas. Là, on nous parle carrément de la vente de cannabis récréatif en pharmacie.
Tout à fait, j'étais un petit peu surpris aussi, mais bon, a priori, ça doit être juste. Ils cherchent sans doute peut-être des moyens de distribution légaux pour pouvoir mieux contrôler les choses.
Bon, c'est possible, après c'est aussi, je pense, une erreur des journalistes. Je pense pas, il me semble pas que l'achat en pharmacie soit pour des raisons récréatives. Bon, peut-être c'est nous qui nous trompons, hein. En tout cas, à la fin de l'article, on nous dit quand même que l'achat en pharmacie serait nominatif et serait limité à 40 grammes mensuels et par usager. Et en plus, c'est énorme au niveau des quantités, quoi. 40 grammes par mois, c'est beaucoup. C'est pas quelques pétards, 40 grammes, quoi. Hein, ou c'est pas quelques infusions, quoi. Donc voilà, bon, en tout cas, tout ça pour vous dire en fait qu'en Uruguay, les choses continuent d'avancer. Il y avait quelques mauvaises langues au printemps qui disaient que comme c'était plus Mujica le président, avec le nouveau président Tabaré Vázquez, la loi c'était pas fait, ils allaient pas le faire, et puis en fait non, ils continuent, quoi.
Oui, tout à fait, ils ont avancé, et donc après quelques réticences, il a mis du temps à y passer, mais voilà, parce que les pharmaciens étaient plus ou moins d'accord pour vendre du cannabis médical, mais bon, a priori l'idée a fait son chemin, et donc c'est passé. Toujours sur le cannabis thérapeutique, on va aller très vite. C'est dans le Journal of Pain, c'est au Canada qu'il y a eu une étude donc au Centre universitaire de santé McGill, qui a été faite sur un peu plus de, presque 500 patients, 215 patients adultes souffrant de
douleurs chroniques.
De douleurs chroniques qui prenaient du cannabis médical et qu'ils ont comparé à autant de personnes avec les mêmes douleurs qui ne prenaient rien. Et là, les gens donc prenaient du cannabis qui avait 12,5% de THC, ce qui n'est quand même pas rien, et ils en consommaient en moyenne 2,5 grammes par jour.
Hein. Ce qui n'est pas rien non plus.
Ce qui n'est pas rien non plus, hein, parce que là, on arrive beaucoup plus qu'aux 40 grammes, parce qu'on arrive à quasiment 60 grammes. Hein. Ouais. 60-70 grammes, oui.
Et donc, ils ont fait ça, et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est donc mal.
C'est une étude qui a été faite sur un peu plus d'un an.
Ouais.
Et donc, c'est une étude d'envergure, hein, sur du long terme. Et donc, ils ont découvert que le cannabis médical semble avoir un profil d'innocuité avantageux lorsqu'il est utilisé par un patient qui sont considérés comme des consommateurs expérimentés et qui participent à un programme thérapeutique de douleurs chroniques sur une période donc longue. Et cela révèle que les consommateurs quotidiens de cannabis ne couraient pas plus de risques de subir d'effets indésirables graves que les non-utilisateurs. Donc explique le docteur Aline Boulanger. Et même, ils ont trouvé aucune preuve d'effets indésirables sur les fonctions cognitives et pulmonaires ou dans les analyses sanguines des consommateurs de cannabis. À l'inverse, ils ont remarqué que les consommateurs de cannabis toléraient nettement mieux la douleur que les autres, donc, et présentaient moins de détresse à l'écart des symptômes et disaient avoir une meilleure humeur et une meilleure qualité de vie par rapport au groupe témoin.
C'est scandaleux.
Donc voilà, une étude quand même assez intéressante.
Bah, hyper sérieuse en plus, hein. Centre universitaire de santé de McGill au Canada, c'est pas n'importe quelle université, quoi.
Et voilà, et pour finir sur le cannabis thérapeutique, une petite brève qui vient du Chili, qui là aussi va sans doute autoriser la vente de médicaments dérivés du cannabis. Pour l'instant, il n'y avait a priori que le Sativex qui était utilisé de temps en temps, et là, donc, ils ouvriraient un petit peu tous les médicaments à base de cannabis qui existent. Donc là-bas aussi, le cannabis thérapeutique, entre guillemets, avance, puisque c'est que des médicaments à base de cannabis et ce n'est pas de l'herbe qui est utilisée de façon médicale.
Oui. Alors juste pour revenir à l'article d'avant, là, l'université de McGill, si ça vous intéresse, cet article figurait sur le site internet topsanté.com. Un article du 1er octobre dernier, le cannabis thérapeutique ne provoquerait pas d'effets indésirables, donc sur topsanté.com. Et là, au Chili, c'était sur le site cannabis-info.com qui reprend une dépêche de l'AFP. Voilà. Et je vous invite aussi j'ai pas mis l'adresse du site internet, je ne me rappelle plus d'où ça sort. Le Parisien, je crois. Le chanvre de l'isolation thermique à la crème DCR. Oui, c'était un article du Parisien, très intéressant.
On reviendra dessus sur toutes les utilisations du chanvre, autres que récréatives ou médicales.
Voilà, mais bon, juste pour vous dire, si vous voulez vous intéresser, lire cet article, c'est sur leparisien.fr. Leparisien.fr du 9 octobre, voilà.
Ça très bien. Dire. Allez, ciao à tous, ciao à tous. Bonne fin de
soirée après Cannabis Circus, c'est le chasseur de son.
Ouais, ciao.
À la semaine prochaine, au revoir.